3. Roland perçut le regard de l'homme en chemise de flanelle et porta la tranche de sa main à sa gorge. John hocha la tête et relâcha immédiatement la gâchette de la pompe. Chip, le propriétaire de la boutique, se tenait à présent à côté de l'air de chargement et la partie de son visage qui n'était pas maculée de sang avait viré au gris. Roland se dit qu'il ne tarderait pas à s'évanouir, ce qui ne changerait pas grand-chose. « Jack !» s'écria le pistolero. « Jack Andolini !» Sa prononciation du nom italien était ravissante, à la fois précise et gazouillante.
« T'es le grand frère de grande gueule ?»
Il avait l'air amusé. Et bien plus loin, Roland l'imagina devant la boutique, peut-être à l'endroit précis où Eddie et lui étaient arrivés. Il ne tarderait pas à bouger. C'était la campagne, mais il y avait encore du monde dans les parages. Le plumet de fumée noire qui s'élevait du camion renversé devait déjà avoir alerté les environs. Bientôt, ils entendraient les sirènes. « Je suppose qu'on pourrait dire que je suis son contremaître, » fit Roland. Il désigna le pistolet dans la main d'Eddie, puis indiqua la direction de la réserve, avant de revenir sur lui-même. « Attends mon signal. » Eddie acquiesça.
« Pourquoi tu ne nous l'envoies pas, mi amigo? Ça n'a rien à voir avec toi. Je le prends lui et je te laisse partir. C'est à grande gueule que je veux parler. Lui arracher les réponses dont j'ai besoin sera un véritable plaisir. »
« Vous ne nous aurez jamais, » répondit Roland d'une voix charmante. « Vous avez oublié le visage de votre père. Vous n'êtes qu'un sac de merde sur pied. Votre propre cap-papa est un dénommé Balazar, et vous lui léchez son gros cul répugnant. Les autres le savent, et ils se moquent de vous. « Regarde un peu, Jack, » disent-ils. « Toute cette lèche, ça le rend encore plus moche. » Il y eut un court silence, puis...
« Vous avez une langue bien mal pendue, monsieur !»
La voix d'Andolini restait imperturbable, mais toute sa bonne humeur feinte avait plié bagage. Idem pour le rire.
« Mais vous savez ce que j'ai à vous dire ?»
Au loin, enfin, une sirène résonna. Roland adressa un signe de tête, tout d'abord à John, qui attendait son signal d'un œil alerte, puis à Eddie. « Bientôt, » disait ce hochement de tête, « vous ne serez plus qu'un tas d'eau dans un trou sans nom, que Balazar construira encore ses châteaux de cartes, Jack. Certains rêves esquissent le destin, mais pas les vôtres. Les vôtres ne sont que des rêves.
La ferme !
Vous entendez les sirènes ? Votre heure est bientôt...
Vaille !
Cria Jack Andolini.
Vaille ! Attrapez-les ! Je veux la tête de cette ordure, vous m'entendez ? Je veux sa tête !
Un projectile rond et noir décrivit un arc de cercle paresseux par le trou de l'ancienne porte réservée au personnel. Une autre grenade. Roland s'y attendait. Il tira une fois à hauteur de manche. Et la grenade explosa en plein vol, transformant le mur entre la réserve et la salle de restaurant en un tourbillon d'éclats de bois meurtrier. On entendit des cris de surprise et de douleur. « Maintenant, Eddie !» hurla Roland en se mettant à tirer sur la nappe de carburant. Eddie se joignit à lui. Roland pensa d'abord qu'il ne se passerait rien. Puis une vaguelette paresseuse de flammes bleues apparut dans l'allée centrale et serpenta jusqu'à l'ancien emplacement du mur du fond. Pas assez, bon Dieu, comme il regrettait que ce ne soit pas du super, comme on l'appelait. Roland tapota le canon de son arme en délogeant les douilles vides qui s'éparpillèrent à ses pieds, puis rechargea.
« À votre droite, monsieur !»
dit John sur un ton distrait. Et Roland s'aplatit au sol. Une balle passa à l'endroit même où il se tenait, une seconde plus tôt. La deuxième attrapa la pointe de ses cheveux longs. Il eut à peine le temps de recharger 3 des 6 chambres de son revolver, mais c'était toujours une balle de plus que ce dont il avait besoin. les deux écumeurs s'envolèrent en arrière, avec un trou identique au milieu du front, juste au-dessous de la racine des cheveux. Un autre truand déboula au coin de la boutique du côté d'Eddie, et aperçut ce dernier qui l'attendait, avec sur son visage sanguinolent un grand sourire. Le gars lâcha immédiatement son arme et commença à lever les mains. Eddie lui logea une balle dans la poitrine avant qu'elles aient atteint la hauteur de ses épaules. « Il est en train d'apprendre, » pensa Roland. « Les dieux lui viennent en aide, mais il est en train d'apprendre. »«
Ce feu est un peu mou à mon goût, »
fit John en sautant sur l'air de déchargement. On distinguait à peine la boutique derrière l'écran de fumée tourbillonnante causée par la grenade déviée. Mais les balles continuaient de voler au travers. John semblait ne pas les remarquer, et Roland remercia le cas d'avoir mis un tel homme sur son chemin. Un homme aussi bon et aussi fort. John sortit un objet métallique et carré de sa poche de pantalon, en fit sauter le couvercle, et d'une pichenette du pouce sur une petite roue fit jaillir une haute flamme. Il lança la petite poudrière enflammée dans la réserve. Des flammes explosèrent tout autour dans un grand « wouf !»«
Mais qu'est-ce que vous foutez ?» hurla Andolini. « Attrapez-les !»«
Viens donc le faire toi-même !» répondit Roland. En même temps, il tira John par un pan de son pantalon. John sauta de l'aire de chargement et trébucha. Roland le rattrapa. C'est le moment que choisit Chip l'épicier pour s'évanouir. Basculant vers l'avant jusqu'au sol jonché de débris avec un grognement tellement léger que c'était presque un soupir.
« Ouais, viens donc !» le provoqua Eddie. « Viens donc, grande gueule, qu'est-ce que tu fous ? Grande gueule, envoie pas un gamin faire un boulot d'homme, ça te dit quelque chose ? Combien t'avais de types là-bas ? De douzaines ? Et on est toujours là ! Alors viens !» « Viens le faire toi-même, ou alors tu veux passer le reste de ta vie à lécher le cul d'Enrico Balazar !»
De nouvelles balles trouèrent la fumée et les flammes. Mais les écumeurs dans la boutique ne montrèrent aucun enthousiasme à l'idée de charger au milieu du feu grandissant. Personne n'arriva par le côté non plus. Roland fit un geste en direction du mollet droit d'Eddie, celui blessé. Eddie leva les pouces pour indiquer que tout allait bien, mais il lui semblait que, sous le genou, son jean était trop plein, gonflé. Et quand il bougeait, sa bottillonne faisait un bruit de succion. La douleur s'était stabilisée en un élancement violent qui semblait se calquer sur les battements de son cœur. Mais il avait tendance à croire que la balle avait manqué l'os. « Peut-être, » finit-il par s'avouer. « Parce que c'est ce que j'ai envie de croire. » La première sirène avait été rejointe par deux ou trois autres, et elle se rapprochait.
« Allez-y !» brailla Jack.
Il avait à présent l'air au bord de la crise d'hystérie.
« Allez-y, bande d'enculés de poules mouillées, allez me le chercher !»
Roland se dit que ce qu'il restait de méchant aurait peut-être attaqué quelques minutes plus tôt. Peut-être même 30 secondes plus tôt. Si Andolini avait personnellement mené l'assaut. Mais à présent, l'option « attaque frontale » n'était plus de mise. Et Andolini savait forcément que, s'il conduisait ses hommes par le côté de la boutique, Eddie et Roland les cueilleraient comme des pigeons d'argile au stand de tir. Les seules stratégies viables qui lui restaient étaient le siège, ou bien un long mouvement latéral par les bois. Et Jack n'avait de temps pour aucun des deux. Mais se contenter de tenir leur position pouvait présenter quelques problèmes aussi. Par exemple, avoir à s'expliquer avec les autorités locales ou avec les pompiers, s'ils se pointaient les premiers. Roland attira John vers lui afin de pouvoir lui parler à voix basse. « Il faut qu'on sorte d'ici au plus vite. Vous pouvez nous aider ?»«
Oh, pour sûr, je pense, oui. »
Le vent changea. Un courant d'air s'engouffra par la vitrine brisée de la boutique, balaya la pièce et l'ancien emplacement du mur du fond, puis ressortit par la porte de derrière. La fumée d'essence était noire et huileuse. John toussa et l'écarta de la main.
« Suivez-moi, d'un bon pas !»
John se rua sur le terrain morne, à l'arrière de la boutique. Enjambant une grue en morceaux et zigzagant entre un incinérateur rouillé et un tas de pièces détachées plus rouillées encore. Sur la plus grosse, Roland lut un nom qu'il avait déjà vu au cours de ses pérégrinations. John Deere. Roland et Eddie reculèrent, couvrant John par l'arrière, jetant de petits regards par-dessus l'épaule pour éviter de trébucher. Roland n'avait pas complètement abandonné l'espoir que Jack Andolini tenterait un dernier assaut et qu'il pourrait le tuer, comme il l'avait déjà fait une fois. Sur la plage, au bord de la mer occidentale. Et voilà qu'il était de retour, non seulement de retour, mais plus jeune de 10 ans.
Tandis que moi, constata Roland, j'ai vieilli d'au moins 1000 ans.
Pourtant, ce n'était pas tout à fait vrai.
Oui, il endurait à présent, enfin, les douleurs auxquelles pouvait s'attendre un homme vieillissant. Mais il avait un cathète pour le protéger. Et pas n'importe quel cathète. Un cathète de pistolero. Et ils avaient apporté un nouveau souffle à sa vie. Un nouveau souffle totalement inattendu pour lui. Tout avait à nouveau du sens à ses yeux. Pas seulement la tour sombre, mais tout le reste. Alors il voulait qu'Andolini vienne. Et s'il tuait Andolini dans ce monde-ci, il avait comme l'impression qu'Andolini resterait mort. Parce que ce monde était différent. Il avait une résonance qui manquait à tous les autres, même aux siens. Il la sentait dans le moindre de ses os et de ses nerfs. Roland leva les yeux et vit exactement le tableau qu'il attendait. Des nuages alignés. Au bout du terrain désolé, un sentier dont le commencement était marqué par 2 volumineux blocs de granit pénétrait dans les bois en serpentant. À cet endroit précis, le pistolero remarqua des ombres dessinant des chevrons, se chevauchant mais pointant toutes dans la même direction. Il fallait regarder attentivement pour le voir. Mais une fois qu'on l'avait remarqué, impossible de le manquer. Comme dans la version de New York où ils avaient trouvé le sac vide dans le terrain vague et où Susanna avait vu les morts errants, celui-ci était le monde réel. Celui dans lequel le temps ne filait jamais que dans un sens. Il parviendrait peut-être à faire un bond dans l'avenir si seulement il trouvait une porte. Comme Jack et Callahan l'avaient fait. Il n'en doutait pas, car Roland se rappelait aussi le poème de la palissade, et il en comprenait maintenant au moins une partie. Mais jamais il ne pourrait retourner dans le passé. C'était le monde véritable, celui dans lequel on ne pouvait relancer les dés, le monde le plus proche de la tour sombre. Et il se trouvait toujours sur le sentier du rayon. John les mena sur le chemin des bois qu'ils descendirent s'entraîner, les éloignant des colonnes d'épaisses fumées noires et du gémissement croissant des sirènes.